France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandinga Housey.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changé de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et donc en direct de la salle des pas perdus de l'Assemblée nationale, la salle des pas perdus, peut-être que vous êtes un peu familier avec ces images-là, parce que des télévisions, Dieu sait qu'il y en a, elle est juste après celle des quatre colonnes en fait, et c'est là qu'on voit sortir les députés qui pour l'instant ne viennent pas encore jusqu'à nous, puisqu'ils sont en train de voter. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Avant d'accueillir notre invité, c'est vers vous que je me tourne, les députés sont en train de voter, on a entendu la sonnerie retentir, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, dire le vote est ouvert maintenant. Où est-ce qu'ils vont d'ailleurs ?
Dans les salons juste à côté de nous, là, à 20 mètres d'ici, ils vont voter. Plusieurs salons et chaque député a son petit bulletin. Ils ont 30 minutes pour le faire. Donc à 18h50, scrutin
théoriquement
clos.
Théoriquement tapante, ouais.
Dépouillement très rapide et maximum 18h55, nous aurons le résultat. Mais François Bayrou l'a donné d'une certaine manière.
Exactement.
Il a pris la parole à la fin, hein, à l'issue des 11 expressions, des 11 groupes politiques.
Parce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent, il a d'abord parlé, c'était son discours introductif,
sa déclaration de politique
avant que les 11 groupes ne se succèdent, et puis il peut répondre, et il a le choix dans ces cas-là. Le Premier ministre, il peut répondre longuement, il peut répondre l'un après l'autre, il fait ce qu'il veut là, il a choisi la sobriété, 5-6 minutes, pas plus.
C'est ça, 5-6 minutes.
Au passé.
Oui, en parlant au passé de ce moment de vérité qui n'effacera pas le réel. Et oui, il a l'impression d'avoir acquis d'une certaine manière l'opinion publique, il a l'impression d'avoir fait passer ce message que la dette était au-dessus de la pile et qu'il fallait y faire attention. Il a remercié son gouvernement, il va les recevoir ensuite pour un pot de départ à Matignon ce soir une fois le résultat donné. Et puis il n'a pas voulu rentrer, comme il dit, dans les insultes, dans la réponse aux insultes. Il a trouvé les discours des opposants très virulents, très violents, et il n'a pas voulu en rajouter. Et donc non, il n'y a pas eu de point par point contre le PS ou la France Insoumise.
Et on y viendra, y compris après le vote avec les invités politiques qui seront là. Maxence, dites-moi juste en un mot, puisque le vote se passe avec des espèces de petites cartes, est-ce que malgré tout on saura
oui.
qui a dit oui, qui a dit non,
tout à fait.
De manière très nominative en
oui,
fait.
Oui, l'analyse du scrutin public, elle voilà. sera publiée 10 minutes après l'annonce officielle. Et là, on aura la liste de tous les députés. Ont-ils voté pour, contre, se sont-ils abstenus? Il y a des abstentions même dans le parti présidentiel. Là, on les apprend au gré du vent. Dans le parti LR de Laurent Wauquiez, peut-être 20 votes contre, ce qui va compliquer encore la donne pour Emmanuel Macron pour la suite. Mais oui, on aura cette liste. Elle sera publiée sur le site de l'Assemblée nationale. Et sans doute qu'il y aura 330 vote contre François Bayrou, aucun suspense.
Voilà, rappelons qu'il y a 574 députés dans l'hémicycle. Exactement, il y a trois chaises vacantes. On aura largement l'occasion d'y revenir. Maxence, merci beaucoup. Je voudrais vous présenter notre invité qui est avec nous dans cette salle des pas perdus. Bonsoir Martial Foucault.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques, chercheur au CEVIPOF. On va essayer ensemble de sortir aussi de ces débats franco-français, parce que peut-être que dans cette crise que nous traversons, au sens large, il y a aussi des choses qui s'expriment de la même manière dans nos pays voisins, avec quand même, ici, là où nous sommes, vous l'avez entendu, le discours de François Bayrou, Martial Foucault, le principe d'abord, et puis le détail après, c'est ce qu'il a essayé de faire passer. À votre avis, quelle histoire il a voulu écrire ce Premier ministre, et qui s'est pris à rebours dans la tête, mais quelle histoire voulait-il écrire ?
Je dirais qu'il a souhaité écrire une histoire contrainte, parce que François Bayrou a pris ses fonctions de Premier ministre dans un contexte qui n'était pas très serein, à la fois pour lui, la famille politique qu'il représente, et d'une certaine manière, je dirais que la ligne qu'il a essayé de fixer, rappelons-nous, il n'avait pas prononcé un discours de politique générale demandant le vote de confiance. Donc il savait qu'il était déjà sur une ligne de crête. L'histoire qu'il a souhaité inscrire, pour moi, elle répond, comme vous dites, au principe. Le principe, c'est un principe de responsabilité. C'est un terme qui est revenu très souvent dans la bouche de François Bayrou en disant « je serai un Premier ministre de responsabilité ». Dès le départ, il n'a pas fait de la question de la soutenabilité des finances publiques, je dirais, l'alpha et l'oméga de sa politique gouvernementale.
Et en même temps, on a le sentiment qu'il a voulu jouer les Français contre les parlementaires. Il les a même pris à revers, puisqu'il ne leur a pas dit ses intentions. Il ne leur a pas dit qu'il allait partir sur une question de confiance. Ça aussi, c'est un pari. Et là aussi, c'est un pari raté. Pourquoi ça rate dans ces moments-là ?
Alors, c'est très surprenant parce que François Bayrou, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas avoir une culture parlementaire. C'est quelqu'un qui est dans la vie politique depuis très longtemps. Il sait comment ce Parlement fonctionne et il sait finalement quelles sont les conditions qui permettraient, il n'y est pas parvenu, mais qui permettraient de garantir de la stabilité gouvernementale. Je crois que vous avez raison de dire que cette opposition entre les Français et les parlementaires, oui, il a pris à surprise les parlementaires, mais fin juillet, fin du mois d'août, mais aussi les Français, parce que même si, et on le voit au fil des enquêtes d'opinion, on voit bien que la question des finances publiques n'est pas totalement ignorée des Français.
Non.
Mais ce n'est pas le sujet prioritaire.
C'est pas le sujet prioritaire, est-ce qu'il l'a remise au centre du village quand même?
Oui, mais alors je dirais d'une manière peut-être très maladroite, parce qu'au fond, le budget, c'est un acte politique fondateur. Mmh. Et on le voit dans d'autres démocraties parlementaires, en général, les oppositions vont essayer d'affaiblir un gouvernement sur la question du budget, parce que les orientations budgétaires dessinent un projet porté par un Premier ministre. En France, je dirais que François Bayrou, durant ses premiers mois jusqu'au mois de juin, la question de la dette n'était pas au cœur de ses déclarations. On avait des sujets sur la cohésion, on avait des sujets sur, une grande variété de politiques publiques, mais pas la dette. Pourquoi a-t-il décidé de faire de sa rentrée? Peut-être avait-il quelques inquiétudes sur la préparation du budget.
Mais qu'allait-il faire dans cette galère? C'est ça que vous dites, en fait? Pas mettre les pieds là-dedans?
Oui, parce que, en fait, comment on interprète politiquement recourir au vote de confiance plutôt que d'être censuré sur un projet de budget comme Michel Barnier l'a été? Je pense que pour François Bayrou, et je ne veux pas rentrer, je ne suis ni psychologue, ni désireux de rentrer dans la psyché de François Bayrou, mais après plus de 50 ans d'une vie politique, devoir tomber sur la censure d'un projet politique, je pense que c'était pas entendable pour François Bayrou. Ça ne veut pas dire que les options qu'il a proposées par un vote de confiance dont il a dit, et je crois que c'est une erreur, donnez-moi quitus sur un diagnostic. Mmh. Mais quand on est Premier ministre et gouverne, on ne va pas chercher la confiance sur un diagnostic. Ça, c'est le travail, je dirais, au fond, des parlementaires dans une campagne électorale.
J'entends ce que vous dites, Marcel Foucault, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup la question. D'ailleurs, on se la pose quasiment depuis la dissolution. Est-ce qu'on est dans une crise politique? Est-ce qu'on est dans une crise institutionnelle? Est-ce qu'on est dans une crise de... Là, je vous entends, on est plutôt simplement dans la grosse bourde d'un homme, en fait. Peut-être qu'il faut aussi ramener, finalement, l'épisode qu'on est en train de traverser à aussi ce qu'il est, finalement, ou pas?
Et peut-être aussi le président qui l'a nommé. Parce que finalement, tout démarre depuis juin 2024.
Rendez-vous raté, quoi.
Mais plusieurs rendez-vous ratés, et peut-être des rendez-vous ratés dans une mauvaise compréhension de ce qu'est l'esprit de la Ve République. Beaucoup de constitutionnalistes louent cette Ve en raison de sa plasticité, sa capacité à absorber tous les chocs. Là, on a plusieurs chocs répétés, et on voit quand même que cette Constitution ne permet pas de répondre immédiatement à ces chocs. Et c'est intéressant parce que finalement, depuis 1958, on a créé, et je crois qu'il faut se poser cette question ce soir, on a créé des institutions qui ont garanti l'obtention de majorités fortes, absolues, mais en fait, les règles n'ont pas changé, mais la vie politique...
Exactement, c'est le paysage qui a changé.
C'est totalement
désormais
transformé.
Désormais, le paysage est tripartite. Mais est-ce que, du coup, on se dit, elles ont bon dos, les institutions, c'est le paysage qui a changé? Ou est-ce qu'il faut se dire, puisque le paysage a changé, il va falloir qu'on fasse changer les institutions?
Moi, je reste sur un principe très, très simple de la science politique. Les institutions sont faites pour être là, et on ne les change pas au gré de circonstances. Ça, vraiment, c'est le corps d'une vie politique qui, au fond, a montré dans plein d'autres pays que quand on commence à jouer avec les institutions, on rentre dans un monde fait d'incertitudes. Donc, ces institutions, cela ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas être modifiées. Mais finalement, est-ce que la situation est totalement différente? J'entends des parallèles qui peuvent être établis avec 1958, quand on est passé de la 4e à la 5e. On n'était pas du tout sur une crise de régime produite par l'exécutif de l'époque. Là, on voit bien qu'il y a une chaîne de responsabilité qui interroge, je dirais parfois, sur un côté apprenti politique avec ces institutions. Et par ailleurs, autre point, les majorités relatives, c'est le lot commun de presque tous les pays européens qui ont des systèmes proportionnels. Et la France reste le seul pays en Europe avec un scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Et en 1958, on avait prévu quand même ce mode de scrutin pour garantir des majorités, non pas par le fait du hasard, mais parce que ça permettait de construire un bloc contre un autre bloc, un système bipartisan.
On n'y est plus du tout, évidemment, aujourd'hui, on l'a bien compris. C'est vous qui avez évoqué comment pouvaient fonctionner nos voisins et comment on est un peu dans notre îlot, nous. Où est-ce que vous diriez que nous sommes aujourd'hui ? Est-ce qu'on est dans l'Italie du début des années 2000 avec Mario Monti ? Est-ce qu'on est dans l'Italie de la fin des années 2020-21 avec Mario Draghi ? Est-ce que c'est là que nous sommes ? Donc dans la constatation de la paralysie et notre incapacité ? Est-ce qu'il nous reste encore une marche à monter ?
Je vais prendre le cas de l'Italie parce qu'il est très intéressant. On est sorti depuis l'élection de Giorgia Meloni de cette instabilité. D'ailleurs, elle a composé une coalition. Son parti ne lui permet pas de gouverner avec une majorité absolue. L'Italie est très intéressante parce que les noms de premiers ministres que vous évoquez, souvent présentés comme des premiers ministres techniques, qui finalement ont dépassé l'opposition des partis politiques. Donc on s'affranchit d'une règle partisane et on laisse à un technicien le soin. C'est pas simplement gérer les affaires courantes, c'est de prendre les décisions les moins politisées possibles. L'Italie, c'est très intéressant parce que finalement, pendant très longtemps, l'Italie, dans les années 2010-2015, considérait que la France était un modèle qui devait les inspirer pour restaurer une stabilité. Et beaucoup d'Italiens ont considéré que le mode de scrutin majoritaire à deux tours était certainement la pierre philosophale à tous les problèmes que rencontrait l'Italie. On voit comment l'histoire s'est retournée et aujourd'hui, est-ce qu'on doit s'inspirer du modèle italien qui n'a pas du tout changé ? Donc, ça ne se passe, de mon point de vue, ça ne se passe pas du côté des règles, mais davantage du côté de la pratique par les acteurs politiques et dont les partis de ces règles institutionnelles et notamment le mode de scrutin.
Et peut-être aussi, Martial Foucault, de la représentativité, parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup dire, y compris dans la rue, le fossé qui peut exister entre ce à quoi ressemble notre Assemblée nationale, ce qu'elle produit et ce que dit aussi la rue. Je vous pose la question, puisqu'on s'est éloigné de la France pour aller en Italie. Regardez le Royaume-Uni à côté, par exemple, qui a un gouvernement travailliste, mais ce qui sera dans la rue après-demain, d'ailleurs en fin de semaine, c'est l'extrême droite qui est en train de monter. Ça montre ça, cette espèce de paradoxe incroyable entre qui nous gouverne et qui sommes-nous. Est-ce qu'on n'est pas pile là-dedans aussi, nous ?
Il y a deux sujets que je distinguerai. Il y a, comme vous le dites, et vous avez raison, il y a un sujet de problème, avant de parler de crise, mais de problème de représentativité, avec un vrai débat philosophique. Est-ce que le Parlement doit être à l'image de la société dans toutes ses compositions, pas simplement socio-démographiques, mais également spatiales, mais aussi peut-être culturelles, religieuses. J'insiste sur ce point. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est pas de la représentativité, mais c'est la pratique de la représentation. Pourquoi au fond, et d'ailleurs je crois pas avoir une réponse très savante à la question, pourquoi n'avons-nous pas en France une culture du compromis ? Est-ce que c'est parce que les députés ne sont pas suffisamment éduqués au compromis ? Bon, c'est une possibilité.
Ils l'ont tous redit ici, il faut trouver des compromis. Ça fait presque un an et demi qu'on parle de faire des compromis, on ne sait pas le faire.
Mais en fait, le terme de compromis renvoie à cette idée, je dirais à partir des années 60 et partout en Europe, où la social-démocratie s'est constituée sur le principe du compromis. En France, on a considéré qu'on avait des partis sociodémocrates parce qu'ils avaient la pratique du pouvoir et qu'ils avaient gouverné, alors on pouvait leur mettre l'épithète de sociodémocrates. C'est véritablement, à mon sens, là l'erreur. Et vous le disiez tout à l'heure, quand on a 11 groupes parlementaires comme actuellement à l'Assemblée nationale, on voit difficilement comment le compromis peut se dessiner et surtout qui est le maître d'ouvrage de la production d'un compromis. Normalement, c'est le rôle du Premier ministre. Mais est-ce que ce Premier ministre, François Bayrou, a véritablement cru lui-même en la capacité du compromis à trouver une voie majoritaire ?
Je me ramène à ce que disait Marine Le Pen dans son intervention, qui elle dit, attendez, le groupe le plus important jusqu'à preuve du contraire, c'est le nôtre. Et donc l'esprit de la loi, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale, à tout le moins, parce qu'il y a cette paralysie. Et les plus importants, c'est nous. Qu'est-ce qu'on dit de cet esprit de la loi, selon le Rassemblement national ?
C'est une vision très, je pense, très instrumentale et très conjoncturelle de l'esprit de la loi, parce qu'il faudrait revenir depuis le début de la Ve République pour vérifier si chaque président et chaque Premier ministre a véritablement, mis en musique cet esprit de la loi. Je crois qu'on serait surpris d'observer que ça n'a pas toujours été le cas.
On retournera à cette conversation, bien sûr, lorsque les députés seront sortis, qu'on aura réellement, si je puis dire, le résultat du vote. Je vous rends la parole, Christelle Robière. Oui. On viendra, évidemment, dès que nous savons exactement ce qu'il en est.
Absolument.
Autour de 18h50, a priori.
À tout à l'heure dans un petit quart d'heure. Retour à Un jour dans le monde. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Christelle.
Et vous remettez le monde à l'endroit.
How dare you?
World has changed.
France Inter. Le 18-20.
Vous nous expliquez, Louise, pourquoi il n'est pas certain que la chute du gouvernement Bayrou affaiblisse la voix de la France.
Ah oui, la France, nouvelle grande malade de l'Europe, paraît-il, vers laquelle tous les regards inquiets convergent, rongés par l'instabilité politique, une dette publique incontrôlable, la défiance des marchés financiers et une croissance en berne. La même semaine, un gouvernement qui chute, dont bientôt une colère sociale qui explose et une agence de notation qui sanctionne. Fitch va rendre son verdict vendredi. Elle devrait dégrader la note souveraine de la France, aggravant encore la charge de la dette. 66 milliards d'euros prévus cette année, soit le deuxième budget de l'État.
Et cette situation, est-ce qu'elle inquiète nos voisins ?
Oui, bien sûr. La France est la deuxième économie de la zone euro et la crise des dettes souveraines au début des années 2010 a montré la possibilité d'un effet domino. Nos économies sont très imbriquées et les défis communs nombreux. Compétitivité face aux États-Unis et à la Chine, réponse aux droits de douane de Donald Trump, sans oublier bien sûr la menace russe. Alors la chute du gouvernement Bayrou s'annonce aussi comme un nouveau coup dur pour le cœur du moteur européen, le fameux tandem franco-allemand. 6 mois après son élection, le chancelier Friedrich Merz est impopulaire, à la tête d'un pays en récession. Bref, les poids lourds d'hier qui faisaient la leçon à l'Europe du Sud ont mauvaise mine et les anciens cancres prennent leur revanche. En Italie, l'inquiétude se double d'une franche ironie vis-à-vis du voisin français, alors que Giorgia Meloni est au pouvoir depuis bientôt 3 ans, un record, que la dette italienne est stabilisée et que le chômage est à son plus bas niveau.
Alors certains voisins se moquent, d'autres sont inquiets, mais est-ce qu'ils écouteront moins la France si elle n'a pas de gouvernement stable ?
Alors en théorie, il n'y a rien d'automatique. Ainsi en Espagne, la fragilité de la coalition de Pedro Sanchez fait qu'il n'y a pas de budget depuis 3 ans. C'est le même budget qui est reconduit chaque année, faute de majorité suffisante, et pourtant l'Espagne est un pays qui se porte bien. L'instabilité gouvernementale est par ailleurs la règle dans de nombreuses démocraties européennes. La Belgique a retrouvé un gouvernement en début d'année après 239 jours de tractation. 239. Les Pays-Bas s'apprêtent à voter de nouveau fin octobre, 5e élection législative en 10 ans. Sauf qu'en France, eh bien, les institutions de la 5e République s'accommodent mal de cette instabilité. Elles sont moins plastiques et un ministre qui gère les affaires courantes n'est plus vraiment vu comme un ministre de plein exercice, ce qui fragilise évidemment sa voix, notamment dans les instances bruxelloises.
Et Emmanuel Macron, est-ce que le président est fragilisé ? Il est en tout cas très actif.
Effectivement, il se veut à l'initiative sur tous les terrains majeurs. Il co-préside la coalition des volontaires aux côtés de l'Ukraine. Il a lancé cet été la dynamique visant à reconnaître l'État de Palestine. Sa voix compte et elle reste prééminente aux yeux des diplomates étrangers. L'un d'eux me confiait récemment ne pas s'attendre à de grands changements à la tête du ministère des Affaires étrangères, pariant sur la continuité donc, peut-être à tort, preuve en tout cas que la tempête qui s'annonce en France n'est pas nécessairement vue comme un facteur de déstabilisation à l'international, effet sans doute du fameux domaine réservé du président sous la 5e République, un usage et non une règle institutionnelle d'ailleurs, qui confère au chef de l'État une prééminence en matière de défense et de politique étrangère.
Merci Louise. Le reportage d'Un jour dans le monde nous emmène ce soir sur la route d'Al-Bab, une ville au nord-ouest de la Syrie. Autrefois sous le joug du dictateur Bachar el-Assad, Al-Bab a été conquise le 13 janvier 2014 par les hommes de Daesh. L'organisation terroriste y a imposé la charia. Les habitants ont dû vivre au rythme des exécutions, des enlèvements et des tortures de la police des mœurs. L'organisation terroriste est partie en 2016, mais elle est restée active. Les assassinats y sont encore fréquents, visant les habitants qui osent encore s'exprimer contre Daesh et les attentats frappent encore. Depuis la chute de Bachar el-Assad, Daesh espère renaître de ses cendres. La suite, eh bien, ce sont les reporters Noé Pignède et Arthur Saradin qui nous la racontent.
Cette maison devant nous, en marge d'Albab, est grise, vétuste, ressemble à toutes les autres.
Une nuit, à 3h du matin, des hommes l'ont prise d'assaut par hélicoptère.
Abed habite juste à côté. Il a 14 ans et ce qu'il décrit, c'est un raid inédit mené le mois dernier par les États-Unis et les nouvelles autorités syriennes. La cible, un haut dirigeant de l'État islamique qui vivait ici.
On a entendu les tirs, puis on est tous sortis effrayés.
Le père de Abed est là aussi. Il vient de terminer de nettoyer les laines de mouton qu'il prépare sur le trottoir de la rue déserte.
Vous voyez, depuis ce raid, tous les voisins sont partis se réfugier dans la campagne. Le type ici vivait parmi nous sans qu'on le sache. Il ne sortait jamais de chez lui. Les gens de Daesh sont encore nombreux, cachés tout autour, parmi nous.
On les estime à environ 3000 hommes, disséminés entre l'Irak et la Syrie. Leurs méthodes sont restées les mêmes, pillage, enlèvement, terreur. Des traumatismes qui ont marqué Albab dès 2014 alors que Daesh prend le contrôle de la ville. Abdallah s'en souvient, le cinquantenaire en porte encore les cicatrices. Pour montrer ce qui lui est arrivé et le raconter, il préfère nous emmener à l'écart, dans une arrière-boutique.
Un jour, j'ai voulu fuir la zone occupée par l'État islamique avec mes parents. Mais des hommes de Daesh nous ont poursuivis et ont tué mon père et ma mère. Moi, j'ai pris une balle dans la main.
Arrêté puis emmené à l'hôpital, il fait face à un docteur membre de Daesh.
Il m'a dit « Puisque tu as essayé de t'enfuir du côté des mécréants, on ne va pas soigner la main, on va te la couper. »
En racontant, Abdallah couvre avec sa main droite l'autre qui a disparu. Ce châtiment corporel qu'il a subi, il n'en parle que rarement en public. Car malgré le départ de Daesh en 2016, plusieurs membres ou collaborateurs de la police des mœurs, la Hizba, sont restés dans la ville, parmi leurs anciennes victimes. Mohamed, d'ailleurs, travaille à quelques pas du rond-point central où étaient menées autrefois les exécutions publiques, et dans le même atelier familial qu'il possède depuis 30 ans.
Mon fils aîné travaillait ici, avec moi à l'atelier. Un jour, il s'est blessé à la main et a lâché un juron. Derrière lui, il y avait un membre de Daesh. Qu'il a ensuite dénoncé.
La suite, Mohamed la raconte, des hommes arrêtent son fils, l'insulte, le traite de porc, de mécréant, puis l'exécute au sabre. Mohamed raconte que son corps ne lui a jamais été rendu, qu'il a été jeté aux ordures car il ne pouvait pas être enterré avec les autres musulmans.
Alors moi je supplie l'État, et je supplie Ahmad Shera, si vraiment il est notre président, qu'il juge tous les membres de Daesh. Ils nous font toujours peur, tout le monde les craint. Nous avons même cessé d'en parler, car depuis la chute de Bachar al-Assad, des gens sont toujours assassinés pour avoir parlé contre Daesh.
L'organisation terroriste ne reconnaît pas la légitimité des nouvelles autorités. Elle a commencé à lancer, comme d'autres groupes djihadistes, des attaques dans les zones prises à Bachar al-Assad. Plus de 700 ont déjà eu lieu en 2024. Alors que Daesh tente de regagner du terrain en profitant d'une transition démocratique fragile, les mois à venir seront décisifs pour le nouveau pouvoir. De sa capacité à mater l'organisation terroriste dépend l'avenir de la nouvelle Syrie.
Reportage signé Noé Pignet et Arthur Saradin. L'actualité passée sous les radars, comme tous les soirs, avec Guillaume Audat. Est-ce que la pauvreté est une prison? C'est ce que demande l'homme qu'on entend, un Norvégien, à une jeune femme qui lui raconte son quotidien.
Et elle lui répond oui, sans embâche, cette jeune femme. Les seules fois où elle en sort de cette prison, c'est, dit-elle, pour s'acheter de quoi manger. L'extrait que l'on vient d'écouter provient d'une série documentaire diffusée le mois dernier à la télévision publique norvégienne. Et cette série de reportages, elle a bouleversé la Norvège qui découvrait sans doute à quel point la pauvreté frappe ce pays d'environ 5,6 millions d'habitants, l'un des pays les plus riches de la planète, sur le papier grâce notamment à l'exploitation du gaz et du pétrole, mais où les ONG alertent. Jamais les inégalités n'ont été aussi fortes. On fait également là-bas la queue pour la soupe populaire au sein d'une société au niveau de vie très élevé, mais où être pauvre en miroir, eh bien cela veut dire être fortement exclu du logement, de l'accès à la santé, de la consommation. Ce lundi, c'est jour de vote en Norvège, élections législatives, l'économie et les inégalités sont en tête des préoccupations et comme partout en Europe à présent, l'immigration est au centre du débat public, l'extrême droite sur place est très, 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 très bien placée, en très forte progression.
Cette jeune femme qu'on entend revient du Pendjab, Guillaume, une région à cheval entre l'Inde et le Pakistan, région dévastée par la mousson.
Oui, elle raconte, cette jeune femme, sur les réseaux sociaux, ce qu'elle a vu, des paysages désolés, des terres noyées, des milliers de villages engloutis sous les eaux. Le Pendjab connaît sa mousson la plus dévastatrice en près de 40 ans. Des pluies, des averses en continu, des fleuves qui sortent de leur lit, 74% de précipitations en plus de la moyenne normale, avec à la clé des dégâts monumentaux, près de 4 millions de personnes déplacées, sans doute déjà des dizaines et des dizaines de morts. Et pour cette région, véritable grenier à riz et à blé de ces deux pays, plusieurs centaines de milliers d'hectares agricoles complètement détruits. Il faudra plusieurs saisons avant de pouvoir recultiver. En cause, le dérèglement climatique, le réchauffement des mers, l'océan Indien en particulier, son impact très fort sur l'humidité. En Inde et au Pakistan, il faut désormais revoir de toute urgence les infrastructures sur place, les barrages vieillissants, les digues très inadaptées. La facture promet d'être astronomique, mais c'est le prix à payer parce que ces phénomènes catastrophiques vont se reproduire et ne manqueront pas de jeter dans les années à venir des millions et des millions de personnes sur les routes de l'exil et de l'émigration.
On est au Nigeria et cet homme atteint du sida prie Donald Trump de revenir sur la suspension des aides américaines destinées à lutter contre cette maladie.
Voilà, et c'est l'un des multiples témoignages recueillis d'un pays à l'autre du continent africain depuis que le président américain, arrivé aux affaires, a décidé de mettre fin au programme de l'USAID. L'USAID, c'est un acteur central dans la lutte contre le VIH en Afrique, de très loin le continent le plus touché, où près de 26 millions de personnes sont porteuses de cette maladie sexuellement transmissible. L'ONG Physicians for Human Rights vient de publier une première étude d'impact et les résultats sont alarmants. En Tanzanie et en Ouganda, lieu de l'étude, on enregistre à nouveau des naissances d'enfants séropositifs. On observe des avortements forcés parce que la crainte est là et elle est très forte chez les femmes en particulier. Une crise sanitaire est en germe, prévient l'ONG américaine, et elle menace d'effacer d'un trait 20 ans de progrès.
Guillaume Audard.